Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore vus ce matin. Voilà, c'est une question, c'est un défi. Un défi que Dieu nous a lancé, à Hervé et à moi, parce que c'est toujours suite aux méditations qu'on lit le matin que la question est venue. Qui est Jésus-Christ pour toi ? Maneva nous a déjà conduit dans la louange en nous montrant qu'il est celui sous les ailes duquel nous pouvons nous abriter. Nous avons pris la Sainte Cène, c'est celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité, qui est à la droite du Père, celui qui nous a apporté la vie éternelle en nous pardonnant nos fautes par sa mort sur la croix. Mais vraiment, qui est Jésus-Christ pour toi ? Alors voici ce qu'écrit Alain Nisus dans son livre « Pour une foi réfléchie ». Savoir que Jésus a existé laisse une question en suspens. Qui était-il vraiment ? Dans les évangiles, il est présenté comme le Fils de Dieu par les disciples, Matthieu 14, 33. Le Messie par Pierre, Matthieu 16, 14, 16. Marthe dans Jean 11, 27. Et Jésus lui-même qui se présente comme le Messie, on le trouve en Marc, chapitre 14, Jean, chapitre 4. Il est présenté comme le sauveur du monde par les Samaritains, aussi en Jean. Alain Nisus continue, « Ce témoignage n'est pas facile à accepter pour tout le monde. Certains estiment que Jésus n'était rien de plus qu'un charlatan, un imposteur, qu'il s'est fait passer pour plus qu'il n'était. » Ou encore qu'il n'a jamais eu de réelles prétentions, mais que ce sont ses disciples qui ont inventé tout cela. D'autres voient en lui un grand homme, un modèle d'amour à suivre, mais en tout cas pas le Fils de Dieu, ni le Sauveur du monde. Et vous, qui dites-vous que je suis ? A demandé Jésus à ses disciples. En Matthieu 16, verset 15, je vous relis le texte. À partir du verset 13, chapitre 16, dans Matthieu, Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ? Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Et nous verrons plus tard la réponse de Simon-Pierre. Et il nous le demande encore ce matin. Est-ce que vous vous êtes récemment posé cette question ? Est-ce que vous avez eu dernièrement l'occasion de réfléchir à nouveau tranquillement à la façon dont vous-même vous auriez répondu à cette question ? Est-ce que vous avez des certitudes quant à la réponse à apporter ? Et donc, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir à nouveau. Donc, vous pouvez sortir parce que ce que je vais vous dire, ça ne vous sert à rien. Pour ma part, donc, une méditation que nous avons lue sur ce sujet a ouvert ma réflexion. Et je me suis demandé quelle facette de l'identité de Jésus dominait le plus ma vie, ma relation avec lui. Alors, nous lirons peu à peu les phrases clés de cette méditation. J'espère vous faire comprendre comment elle m'a interpellée. Et nous essaierons de nous demander comment nous-mêmes nous nous positionnons quant à l'identité de Jésus. Donc on va commencer à lire. À chaque fois que ça apparaîtra, vous aurez la suite de la méditation. L'histoire du Nouveau Testament retrace l'évolution de la compréhension toujours plus grande que les gens de cette époque possédaient de l'identité de Jésus. Ceux parmi lesquels il grandit dirent « C'est le fils de Marie et Joseph, nous le connaissons. » Et en effet, si nous ouvrons nos Bibles, nous lisons en Matthieu 13, 55-56 « N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous ? D'où a-t-il reçu tout cela ? » Lors de notre dernier congrès baptiste à Tours, les enseignements apportés par Djema Taboyan portaient autour de l'identité. Sa première étude nous rappelait l'identité d'une personne, votre identité, mon identité. Ça passe en premier lieu en France, mais aussi dans d'autres pays, lorsque nous parlons de cette personne, par son prénom et son nom de famille. Donc, vous me voyez, je m'appelle Laurence Turquet. Donc, tous ceux de cette église me connaissent comme Laurence Turquet. Mais c'est vraiment simple, basique. Vous connaissez mon nom, vous ne pouvez pas forcément dire que vous me connaissez. Après, certains connaissent la famille Turquet, parce que mes beaux-parents étaient une des familles dans les origines de cette église. Pas tout à fait au départ, mais mes beaux-parents ont beaucoup œuvré. Et donc, ça permet de situer les gens. Lorsque vous avez grandi avec une personne, vous connaissez un peu sa vie, ses comportements, ses parents, ses frères et sœurs, et vous pensez donc bien savoir qui elle est. Donc, en ce qui concerne Jésus, ceux qui ont grandi avec lui ne peuvent que s'étonner de sa sagesse. Parce qu'une famille de charpentiers n'est pas appelée à réfléchir à des sujets philosophiques ou théologiques, mais plutôt aux différentes façons de travailler le bois. Il est censé se comporter comme ceux de sa condition. Par analogie, lorsqu'une personne vient d'une famille où on sait qu'il y a beaucoup de voleurs, ou par exemple de nombreux médecins, il va paraître évident aux observateurs que lorsqu'un larcin a été commis dans l'environnement de notre premier individu, c'est forcément lui qui a fait le mauvais coup, même s'il n'est pas responsable. Ou bien lorsque le second va choisir de faire des études, il va forcément s'orienter vers la médecine. Et on s'étonnera que cette personne devienne peintre en bâtiment, acteur, musicien ou explorateur, quelque chose qui n'a rien du tout à voir avec la médecine. On est conditionné par cette connaissance qu'on a du milieu familial. Donc, finalement, dans sa propre patrie, il y a quelque chose qui commençait mal pour Jésus, parce qu'il n'était pas sur les bons rails. Mais quelle résonance a le nom de Jésus-Christ en vous ? Est-ce que vous pensez à lui seulement comme il était, parce qu'il était fils de Dieu ? Ou bien est-ce que dans votre tête, il y a aussi le fait qu'il était fils de charpentier et qu'il connaissait parfaitement le monde du travail. La perception par rapport à son nom s'est inversée de nos jours. De nos jours, on le voit comme fils de Dieu, on ne le voit plus comme fils du charpentier. Donc vous voyez comme on est influencé dans nos perceptions. Continuons la méditation. Les foules qui commençaient à le suivre pensaient qu'il était peut-être Élie, ou l'un des prophètes d'antan revenu à la vie. En Marc 8, chapitre 8, versets 27 et 28, nous lisons « En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d'après eux ? Ils lui répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. » Tout petit peu différent de ce que j'ai lu dans Matthieu. Dans Matthieu, on parle aussi de Jérémie. À l'écoute des enseignements de Jésus, les auditeurs comprennent qu'il est plus que ce qu'ils pourraient penser. Alors, ils se réfèrent à ce qu'ils connaissent à l'époque. Un homme particulier qui a reçu l'Esprit de Dieu et apporte des messages de sa part. Bon, c'est paradoxal qu'ils le prennent pour Jean-Baptiste. En effet, ce dernier était encore en vie lorsque Jésus a démarré son ministère. C'est même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Vous pouvez le retrouver dans Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors, si Jésus était, entre guillemets, la réincarnation de Jean-Baptiste, comment est-ce qu'il aurait pu commencer son ministère avant que Jean-Baptiste ne meure, tué par le roi Hérode ? Et comment comprendre que Jésus lui-même a fait son éloge devant la foule, en parlant de Jean-Baptiste comme une personne différente de lui-même ? Il a déclaré « Parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. » Alors d'autres répondent que Jésus serait Élie. Et ça peut nous sembler aussi étrange, à nous qui avons lu le Nouveau Testament. Mais si nous nous replaçons à l'époque, avec les prophéties connues par tous les Juifs de ce moment, les deux derniers versets de l'Ancien Testament annoncent que Dieu enverra avant la venue du grand et terrible jour de l'Éternel, que Dieu enverra Élie avant la venue du grand et terrible jour de l'Éternel. Si vous avez un doute, vous retrouvez ça dans Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6. Alors les gens, en entendant Jean-Baptiste qui appelle à se repentir, puis Jésus, ils comprennent qu'ils font un amalgame en entendant les paroles. Jean-Baptiste leur dit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Jésus dit « Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous paierez tous de même. » Et Malachie leur parlait du grand et terrible jour de l'Éternel et Élie qui viendrait. Donc, ils mélangent un peu tout. Et ils pensent que Jésus, c'est peut-être Élie, c'est peut-être celui qu'on nous a annoncé. Élie, il était quand même considéré par le peuple d'Israël comme l'un des plus grands prophètes. C'est lui qui a déclaré à Achab, à tout le peuple qui lui obéissait, ses malheurs. Il a été envoyé par Dieu pour annoncer que tout le pays serait frappé d'une sécheresse à cause du mal commis. Et donc, le peuple de Dieu avait bien retenu ça. Comment ne pas avoir de doute sur l'identité de Jésus ? Mais pourtant, ce n'est pas comme ça qu'il est en train de se présenter aux hommes lorsqu'ils le voient vivre. Mais en parlant d'être mis en garde contre ce grand et terrible jour de l'Éternel, est-ce que nous, aujourd'hui, on ne voit pas souvent Dieu comme celui qui crie contre notre péché, contre le mal, plutôt que comme celui qui vient délivrer, apporter la joie et la bénédiction ? Il y a certaines personnes qui vous présentent Dieu comme le Père Fouettard, n'est-ce pas ? Continuons notre méditation. Sous l'effet d'un éclair de révélation divine, Pierre annonça alors que Jésus interrogeait ses disciples sur son identité : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et donc c'est le verset 16 qui continue le texte que j'avais commencé à lire tout à l'heure. Ceux qui ont suivi Jésus, qui l'ont côtoyé, qui ont vécu proche de lui, ont bien remarqué la différence. Remplis de l'Esprit Saint, ils ont eu cette révélation de la véritable nature, de la véritable identité de Jésus. Mais là encore, certains se sont mépris dans cette compréhension. On désignait par Messie un roi de la lignée de David qui serait le grand libérateur du peuple. Il y avait là un destin humain dans le cadre d'une royauté uniquement terrestre. Certains avaient l'intuition d'un règne plus étendu, différent, qui touchait à l'ordre spirituel sans en comprendre tout le sens. Mais on attendait vraiment un roi victorieux à la tête d'une armée qui allait délivrer Israël. Si bien que sur le chemin d'Emmaüs, après que Jésus soit mort, les deux disciples qui ont parlé avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu, ils lui ont dévoilé leur incompréhension face à sa mort. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël, mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Luc 24, 21. Alain Isus souligne dans son livre, pour une fois réfléchi, « Quand au moment de l'arrestation de Jésus, les disciples fuient, ils montrent par là qu'ils ont certainement été déçus quant à leur attente du Messie. Ils voulaient une délivrance immédiate par un libérateur politique. Au lieu de cela, ils sont en présence d'un condamné à mort. » Mais si nous revenons à la déclaration de Pierre, nous constatons que lui avait bien reconnu en Jésus le Fils du Dieu vivant. Quelle affirmation incroyable ! Là, il y a vraiment un tournant dans la compréhension que les contemporains de Jésus ont eue de son ministère et de son identité. Dans l'Ancien Testament, le mot « Messie » désignait celui qui était oint, mis à part par un certain rite, ce rite de l'onction, on verse de l'huile sur une personne, pour exercer une fonction précise au sein du peuple de Dieu. Donc, on oignait les prêtres, les prophètes et les rois. Mais aucun Messie n'a réuni les trois fonctions à la fois. Jésus, lui, était prêtre, prophète et roi. Et c'est cela qui est enfin révélé à Pierre et que peu à peu les textes du Nouveau Testament vont révéler au peuple de tous ceux qui vont croire en Jésus. Il est venu libérer les captifs non seulement sur la terre mais aussi dans les cieux, les coupant de l'esclavage du péché. Pourtant, est-ce que parfois il ne nous arrive pas de penser à Jésus seulement comme un roi ou comme un prêtre ? Un sacrificateur, et laisser un peu de côté qu'il est prophète à cause de notre culture, parce que dans une certaine religion, il n'est reconnu que comme cela, un prophète. Parfois, je me pose la question. Terminons cette méditation. Ce n'est que plus tard, dans le Nouveau Testament, que nous voyons émerger l'idée que Jésus est le Messie de l'univers. Un chef qui dépasse toutes les différences géographiques et ethniques, assurant la cohésion de l'univers, Colossiens 1, 17, et soutenant toute chose par sa parole puissante, Hébreux 1, 3. Ainsi est-il, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga, le fidèle et le véritable, la parole de Dieu à la tête des armées célestes, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, on pourrait passer des heures à discuter, comprendre, explorer, découvrir, analyser, nous réjouir de tous ces titres, de tout ce que ces titres et ces qualificatifs signifient pour ceux qui se sont repentis de leur vie ancienne et se sont tournés vers Jésus, acceptant son pardon et commençant à le suivre et à pratiquer tout son enseignement. Voilà, nous avons vu tout ce que peu à peu le Nouveau Testament nous révèle sur l'identité de notre Sauveur et Seigneur. Mais arrivé à ce point, j'aimerais qu'on se pose la question vraiment chacun pour soi. Qui disons-nous qu'il est finalement ? Alors, je vais reprendre certains qualificatifs, hein, ils sont tous vrais, mais en vous mettant en garde, si on ne prend que tel aspect de la personne de Jésus, de façon isolée, ne voyant que cette facette de lui, nous risquons de le réduire à un ou deux aspects de son identité, sans vivre auprès de lui vraiment toute la plénitude qu'il nous promet. Alors, nous savons... Et est-ce que vous pouvez dire qu'il est celui qui règne dans les cieux ? Oui, il règne dans les cieux. Il était auprès de Dieu dès la création du monde et il est assis à la droite du Père. Mais c'est loin de nous, les cieux. C'est vaste. Et on lit dans Actes 1, 11, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous » en redescendra un jour, de la même manière que vous avez vu y monter. Et ça pourrait nous faire penser qu'il est maintenant loin de nous, qu'il nous regarde de haut. Alors, est-ce ainsi que vous le percevez ? Comme un parent qui aurait pris des vacances loin de vous ? Hein, en ce moment, c'est les vacances qui se terminent. Elles vont finir quand, les vacances de Jésus ? Est-ce que pour vous, il est notre ami ? En Jean 15, 15, Jésus déclare à ses disciples « Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et nous qui sommes aussi ses disciples, nous pouvons aussi nous réjouir d'être ses amis. Avec la Bible, nous comprenons la pensée du Père et de son Fils, Jésus-Christ, cette parole qui est la vérité. Nous pouvons l'étudier en totalité. Mais on peut aussi se demander si on n'est pas de ceux qui n'acceptent pas toujours cette parole ou qui l'interprètent à leur avantage. gardant seulement ce qui nous arrange, en nous disant que finalement cet ami il efface les fautes. Alors si on enlève un peu quelque chose, il comprendra. Et là, quand j'ai eu cette pensée, je me suis dit qu'il faut un exemple pour que vous compreniez bien. Et justement, en discutant avec Hervé, il m'a parlé de ces croyants qui disent que seuls les évangiles sont dignes de confiance. Ce qui a été écrit ensuite par Paul, par exemple, c'est qu'une interprétation humaine de la parole de Dieu, et ça ne contient pas de vérité, on ne doit pas en tenir compte. J'étais étonnée parce que je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui disaient ça. Mais voilà, ils prennent que ce qui leur plaît. Est-ce que pour vous, Jésus, c'est l'alpha et l'oméga ? Donc on trouve ça dans Apocalypse 1,8. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Cela nous encourage, car le Seigneur nous affirme qu'il connaît toutes choses depuis le commencement jusqu'à la fin. Il est la source absolue de toute création de l'histoire. Rien ne se passe en dehors de lui, pas plus qu'il n'existe de lettres de l'alphabet grec qui ne soient comprises entre l'alpha et l'oméga. C'est une petite parenthèse, c'est une citation du nouveau commentaire biblique contemporain, un livre de théologien africain. Donc Dieu connaît toutes choses, mais est-ce qu'on n'a pas parfois le sentiment que Dieu nous a délaissés, qu'il se produit des situations dans notre vie qu'il ne contrôle pas, donc qui ne seraient pas entre l'alpha et l'oméga? Ça m'est arrivé de penser ainsi lorsque j'ai fait une grossesse extra-utérine ou lorsqu'on a dû rentrer du Cameroun car rien ne semblait plus aller dans notre engagement missionnaire. Mais nous avons pu voir que Dieu était aux commandes de toutes choses. Et vous, connaissez-vous parfois de telles situations? Est-ce que Jésus est pour vous le fidèle et le véritable? Alors, ce qualificatif est un peu particulier. Il intervient dans Apocalypse 19, le verset 11. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. On peut se réjouir de toujours pouvoir compter sur notre Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Nous savons qu'en toutes circonstances, la vérité, la justice triompheront avec lui. Ce passage d'Apocalypse fait entrer en scène un cavalier blanc qui n'est autre que Jésus-Christ et nous fait assister au combat contre Satan qui est finalement jeté dans l'abîme. Alors finalement, en entendant ça, on pourrait considérer que tout cela arrivera dans un futur éloigné. Et nous ne nous sentons pas concernés par ces images du livre de l'Apocalypse. Mais finalement, si nous y réfléchissons à deux fois, nous pouvons voir qu'il y a un véritable paradoxe. Et là, je cite une petite étude que j'ai trouvée sur le site des GBU, en se disant que c'est loin de nous, que ça ne nous concerne pas. Il y a un véritable paradoxe avec les gens de notre temps. Quand on leur décrit le combat spirituel tel qu'il est décrit dans la Bible, ils trouvent ça trop simpliste, pas crédible. Il faut dire qu'ils sont du mauvais côté. Par contre, ils se gavent de séries, de films, sur les chevaliers ou les super-héros, avec des camps bien définis et un vrai gagnant à la fin. Comme quoi, ils aspirent quand même à voir les gentils gagner. Enfin, les gentils selon leurs critères. Mais est-ce que nous-mêmes, on est tellement éloignés de ces gens de notre temps? Est-ce que nous savons garder nos idées claires et notre pensée affermie en regardant nous aussi certains films, en nous réjouissant de la victoire de tel ou tel adversaire, alors même qu'il n'est toujours pas fidèle à la vérité? Que deviennent dans ce moment-là nos certitudes chrétiennes? Au moment où on regarde, on oublie qu'on est chrétien, le méchant, il va quand même gagner et on est content parce qu'il est moins méchant que l'autre. Alors je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais citer comme exemple. Vous connaissez Ocean 11, Ocean 12 et Ocean 13? Hein? George Clooney qui lutte contre Andy Garcia. Donc George Clooney, c'est Danny Ocean, et Andy Garcia, c'est Terry Benedict. Si les noms des personnages vous parlent plus. Mais pourtant, dans l'histoire, tout le monde est voleur, tout le monde est menteur, et c'est des hommes peu recommandables en vérité. Mais on est pris au jeu. On souhaite de tout son cœur voir le bon, entre guillemets, George Clooney triompher. Mais il n'y a pas vraiment de bon dans ces films. Il n'y a que notre cavalier blanc de l'Apocalypse qui est le fidèle et le véritable. Et notre vie n'est pas un film. Nous devons veiller à ne pas transposer dans la vie réelle ces situations qui se développent dans les fictions, commencer à mélanger le vrai et le faux. Insidieusement, le diable se sert de ces images qui semblent anodines pour transformer notre perception de la vérité. Alors, j'ai déjà dit, mais vraiment, le temps nous manque ce matin, je vais vous endormir si je continue. On pourrait parler de tous les noms qui sont attribués à notre Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que pour vous, Jésus est l'agneau immolé ? La parole de Dieu à la tête des armées célestes ? Le roi des rois et seigneur des seigneurs ? Il y a là matière à réflexion et je vous laisse vous-même vous pencher là-dessus pour que vous fassiez des recherches. Mais tout cela nous donne les multiples facettes, et ceux qui ont déjà entendu vont penser à une prédication, du seul diamant qu'est Jésus-Christ. Je vous avais parlé une fois d'un diamant. Alors, toutes ces réflexions, c'est pour vous pousser à réfléchir, pour pouvoir répondre à cette question que Jésus a posée à ses disciples. Qui ? Alors, j'ai mis aussi des points de suspension parce que vous pouvez encore trouver des noms hein, pour Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis ? Eux, lorsqu'ils étaient là avec lui, ils n'avaient pas encore tous les textes qui composent maintenant notre Nouveau Testament. Ils n'avaient pas de recul pour considérer toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui étaient en train de s'accomplir sous leurs yeux, même si certains ont remarqué que voilà, la parole s'accomplit. Et pour certains, c'est seulement à partir du livre des Actes qu'on remarque leur compréhension. J'ai par exemple noté en Actes 3, 21, il est dit « En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. » C'est dans Actes qu'on peut lire ça, quand l'Église a commencé à se développer. Mais ces personnes à qui Jésus a posé cette question, eux-mêmes se sont posé des questions. Ils ont mis les choses bout à bout parce qu'ils connaissent les textes bibliques. Et ils ont constaté que tout ce qu'ils avaient vécu était prévu de toute éternité. Ils n'ont pas seulement gardé les choses qui les arrangeaient, mais ils ont considéré la plénitude de la révélation de Jésus-Christ, ce que la parole de Dieu leur disait, ce qu'ils ont vécu. Alors oui, que nous tous ce matin, nous puissions reconnaître toute la plénitude de son identité, et pas seulement ce qui nous plaît en lui, mais que des faits qui ne nous plaisent pas, ça vient aussi de lui. Accepter qu'il pointe du doigt nos comportements ou nos mauvaises pensées. Accepter que tout autour de nous n'est pas comme nous le voudrions, mais comme lui l'a décidé. Alors, une dernière anecdote pour faire comprendre ça. Cette année, durant les vacances, notre petite fille avait une question qui revenait toujours. « Mais Malo, c'est vrai que c'est Dieu qui a tout créé sur Terre. Mais pourquoi est-ce qu'il a créé les scorpions et les serpents venimeux ?» Alors, moi, la méditation que j'ai lue cet été, que je vous ai fait lire, les questions que Jeanne a posées, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que j'accepte Jésus tel qu'il est pleinement, tel que la Bible nous le révèle ? Est-ce que je ne retiens de lui que ce qui m'arrange ? Est-ce que j'aimerais lui dire comme Jeanne, ne laisse pas vivre les scorpions ou les serpents venimeux autour de moi ? Ou bien est-ce que j'ai cette conscience qu'il est omniprésent et omnipotent en toutes circonstances, parce que j'ai entièrement confiance en lui depuis qu'il m'a sauvée et que je lui ai remis ma vie. Et vous, qui dites-vous qu'il est ?